Le journal vous est présenté par Adrien Taufollet.
Bonjour à tous. Les doses de vaccins sont prêtes pour le coup d'envoi ce matin de la campagne vaccinale contre le Covid-19. Une dizaine de résidents et un médecin de plus de 65 ans seront d'abord vaccinés dans une unité de séjour longue durée à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Ensuite, quelques résidents et un professionnel de santé suivront dans un EHPAD de Dijon. C'est le coup d'envoi d'un processus qui va durer des mois et qui se fera par étapes, Véronique Julien.
Aujourd'hui, c'est un rodage et c'est un peu pour la photo symbole avec deux établissements qui se prêtent au jeu. La semaine prochaine, compte tenu du nombre de vaccins disponibles encore limité et des congés de fin d'année qui génèrent des absences, l'opération se poursuivra encore timidement dans quelques EHPAD et unités de long séjour volontaires et proches de Paris, Lille, Tours et Lyon, où des plateformes ont été livrées. Durant les deux premières semaines de janvier, on va surtout s'occuper de recueillir les consentements des résidents et de leurs familles. Quelques centaines de structures commenceront tout de même à vacciner, mais c'est à la mi-janvier que la campagne deviendra massive. Objectif, avoir vacciné ou proposé la vaccination à tous les résidents et personnels à risque des EHPAD, c'est-à-dire 1 million de personnes d'ici fin février. Ensuite seulement viendra le tour des plus de 65 ans, 14 millions de personnes en plus à vacciner dans le courant du printemps. Pour l'instant, c'est avec le vaccin Pfizer, mais d'autres vont bientôt arriver. Moderna début janvier, AstraZeneca ensuite, puis CureVac et Janssen. Avec ces 5 contrats passés par l'Europe, on aura de quoi vacciner 15 millions de Français d'ici l'été, assure Matignon, et même bien plus que ça, puisque les contrats portent sur 27 millions de personnes. On est large, explique l'exécutif, pour avoir de la marge en cas de problème.
Avec près de 1500 morts du Covid, la Seine-Saint-Denis fait partie des départements les plus endeuillés par l'épidémie. Alors c'est évidemment assez symbolique de voir les premières doses administrées sur ce territoire. Écoutez Stéphane Troussel, le président socialiste du département de la Seine-Saint-Denis.
Ces premières vaccinations, elles sont une lueur d'espoir pour notre pays et bien sûr un signe fort envers la Seine-Saint-Denis. C'est effectivement d'être aux côtés de ce territoire de la Seine-Saint-Denis qui a payé ce lourd tribut et puis peut-être justement d'envoyer un signal en disant que il faudra tenir compte des réalités des territoires. La Seine-Saint-Denis a particulièrement souffert. Dans la réponse qu'il faut donner, eh bien, il faudra aussi à chaque fois s'adapter, tenir compte des réalités. Je crois vraiment que dans un pays qui, plus qu'ailleurs, exprime des doutes, eh bien, il y a cet enjeu à la fois de l'information, de la transparence, pour gagner la confiance. Le plus dur reste encore à faire. Et donc, je crois vraiment qu'il faut intégrer les citoyens via le tissu associatif, via des instances locales dédiées pour communiquer en proximité avec les bons mots, parfois aussi, disons-le, dans les bonnes langues, pour qu'on puisse gagner la confiance et faire en sorte que cette vaccination, elle soit la plus largement partagée par nos concitoyens.
Stéphane Troussel, joint par Rosalie Lafarge. L'instauration d'un troisième confinement n'est pas exclue si la situation épidémique devait s'aggraver. C'est ce que laisse entendre le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans une interview au journal du dimanche, tout en précisant qu'aucune décision n'était arrêtée à cette heure. La circulation importante du virus depuis plusieurs semaines, avec 15 000 contaminations détectées par jour en moyenne, ainsi que la période des fêtes qui a favorisé la promiscuité, font craindre au gouvernement une troisième vague début janvier. Il n'y a pas que la France qui vaccine contre le coronavirus, c'est toute l'Europe. Ce week-end, hier, l'Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie ont commencé à vacciner leur population. Quant à Israël, Benjamin Netanyahou veut passer à la vitesse supérieure. Au moment où le pays subit un nouveau confinement, le Premier ministre israélien annonce une offensive de vaccination sans précédent dans le monde. Objectif 150 000 personnes par jour à partir du début de la semaine prochaine. Direction la Turquie maintenant, où chaque week-end, depuis un mois, la population vit sous un régime de couvre-feu pour limiter la propagation du virus, interdit de sortir de chez soi sous peine d'une amende de plusieurs centaines d'euros. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les touristes sont autorisés à déambuler dans les rues d'Istanbul. Certains musées même restent ouverts pour les accueillir. À Istanbul, la correspondance de Cerise Sudri-Ledu.
Des rues vides, des terrasses désertées, des magasins fermés. Comme dans beaucoup de grandes villes européennes, Istanbul est en couvre-feu. Ici, le week-end, personne n'a le droit de sortir de chez soi. Mais quand on s'approche des sites touristiques, le paysage est différent, car ici les touristes sont libres de déambuler dans la rue et certains musées sont même restés ouverts pour les accueillir. Pour Kirill, 32 ans, venu de Suède, pas question de rater cette opportunité.
Je suis vraiment navré pour la population locale qui doit rester chez elle. Mais je suis heureux de pouvoir vivre cette expérience. Imaginez la basilique Sainte-Sophie avec des chats à l'intérieur et presque personne. C'est si rare de pouvoir être presque seul dans ce bâtiment si gigantesque.
Si en Turquie, depuis deux semaines, est le retour d'un temps très hivernal, plus de 200 personnes meurent chaque jour de la Covid, aucun test n'est demandé aux visiteurs, et la scène de ces centaines de personnes, masques sur le nez et les yeux en l'air, est quelque peu surréaliste. D'autant plus que certains restaurants, qui ne sont censés fournir que des plats à emporter, ont calé des coussins sur les vitrines, ont baissé les rideaux et laissé les touristes déguster tranquillement leur kebab assis à des tables. Et ce n'est pas Yousri, venu avec ses amis depuis Arles, qui va bouder son plaisir.
Ça fait depuis septembre que je n'ai pas mangé dans un resto, que ce soit en France ou autre part, donc ce sera de la viande en premier choix et pour la suite on verra.
Pour les Stambouliotes, en revanche, l'ouverture des restaurants n'est pas encore annoncée.
Cerise Sudrille du. Des nouveautés sur l'organisation du bac 2021. Les règles pourront être changées jusqu'à deux semaines avant les épreuves, si besoin, en raison de la crise sanitaire. Réduction du nombre d'épreuves, modification des coefficients. Le ministère de l'Éducation nationale vient de signer une ordonnance publiée hier au journal officiel. Rodrigo Arenas, le coprésident de la Fédération des conseils de parents d'élèves, déplore un manque de concertation. On l'écoute.
Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le gouvernement s'est autorisé finalement le droit de ne pas anticiper ce qui va arriver et qui est inévitable. Et ce qu'on nous disait il y a 2-3 semaines, ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y a le vaccin qui arrive, n'était pas une réponse sérieuse il y a 3 semaines, ce n'est toujours pas une réponse sérieuse aujourd'hui. Donc l'anticipation, ce n'est pas ça. L'anticipation, ce n'est pas la débrouille. L'anticipation, ce n'est pas attraper la queue du Mickey. L'anticipation, c'est au mois de janvier, de faire une concertation avec l'ensemble des acteurs du monde éducatif, dont sont d'ailleurs les parents d'élèves, pour faire en sorte que tout le monde fasse l'effort national. Car aujourd'hui, on se rend compte que quand on a dit liberté pédagogique est quelque chose de central et nous le respectons, en fait, on se rend compte que cette liberté pédagogique aujourd'hui est sous ordonnance gouvernementale. Donc, ce n'est pas ça la concertation et ce n'est pas ça la démocratie. Il y a une démocratie à l'école et vous remarquerez que les derniers à être informés et les derniers à être consultés, ce sont les élèves. Or, l'école est précisément faite pour eux. Les enfants, en ce moment, psychologiquement, vont très mal.
Rodrigo Arenas, joint par Soizic Bourg. La météo du jour, la tempête Bella souffle encore sur la France. Le Finistère et la Manche seront encore en vigilance orange pour vent violent jusqu'à midi. Vigilance orange neige et verglas pour l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère, le Puy-de-Dôme. De la pluie quasiment partout ailleurs. Les températures évolueront entre -4 et 10 degrés ce matin, entre 3 et 12 cet après-midi.